Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour et bonsoir. Selon l'heure que vous nous suivez, ravi de vous retrouver en ce dimanche 18 juillet 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal, suivi d'un commentaire politique. Une armée de l'air balistique, une DCA invisible. La résistance a déjà eu la peau de l'entité sioniste. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, l'Iran est prêt pour l'échange de prisonniers avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, et les pourparlers de Vienne sur le nucléaire doivent attendre le nouveau gouvernement en Iran. Chargement de la première cargaison de pétrole depuis le terminal de Jask dans le sud de l'Iran dans les deux prochains jours. Et puis le cinéma, grand prix de festival de Cannes pour le héros iranien et Asrar Farhadi. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministère iranien des Affaires étrangères a riposté aux États-Unis après avoir démenti un accord humanitaire impliquant également le Royaume-Uni pour échanger 10 prisonniers de tous les côtés. Réagissant au déni de l'accord par les États-Unis, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a souligné que les États-Unis ignorent l'existence de l'accord sur l'échange et même d'un accord sur la façon de l'annoncer, alors qu'il s'agit des faits simples qui ne doivent pas être politisés. Le diplomate iranien a qualifié de scandaleux le fait de nier l'affaire aux États-Unis. Saïd Khatibzadeh a déclaré que l'échange humanitaire avait été convenu à Vienne, mais indépendamment des pourparlers nucléaires sur la relance du PGAC et l'accord nucléaire, il a déclaré que l'Iran est prêt à concrétiser l'accord même aujourd'hui. Chargement de la première cargaison de pétrole depuis le terminal de Jask dans les deux prochains jours. L'opérateur du terminal de Jask au sud de l'Iran, Vahid Maliki, a annoncé le chargement et l'exportation de la première cargaison de pétrole lourd depuis le port de Jask par une boule flottante d'ici deux jours et déclaré « Ce matin, le pétrole brut est arrivé à 920 km du pipeline Gore-Jask ». Vahid Maliki, s'exprimant le samedi 17 juillet, à l'occasion d'une interview avec l'IRNA, a fait part du lancement de la construction du terminal de Jask simultanément à l'exploitation de la première phase, avant d'ajouter « Le terminal de Jask comprend trois systèmes de comptage, mesure du pétrole brut, et six pipelines de 36 pouces à connecter à trois boules flottantes ». Cinéma, grand prix du Festival de Cannes pour le héros iranien. La cérémonie de clôture du 74e Festival de Cannes s'est tenue le samedi soir 17 juillet et le grand prix du festival a été décerné au cinéaste iranien Asrar Farhadi avec son film « Un héros », le deuxième prix le plus prestigieux après la Palme d'Or ex aequo avec le finlandais Juho Kusmanen. La Française Julia Ducournau remporte la Palme d'Or pour son film Titane au terme de la nouvelle édition du Festival de Cannes. Le Festival 2021, qui devait avoir lieu du 11 au 22 mai, a été reporté en raison de l'épidémie du Covid-19 et s'est finalement tenu du 16 au 17 juillet après près de 2 mois de report. Autre thème, le pèlerinage annuel du Hajj a commencé à la Mecque avec des dizaines de milliers de musulmans résidant en Arabie Saoudite au milieu de la pandémie de coronavirus. Les autorités saoudiennes n'ont choisi que 60 000 résidents entièrement vaccinés par le biais d'une loterie pour participer au deuxième pèlerinage réduit du Hajj. Le nombre est bien en deçà de l'un des plus grands rassemblements religieux annuels au monde, qui a vu environ 2,5 millions assister à la cérémonie avant la pandémie en 2019. Des images sortant de la grande mosquée et de la Mecque montrent des pèlerins encerclant le site le plus saint de l'islam masqué et à distance chemin. Le Hajj de 5 jours atteint son apogée le mardi qui marque l'Aïd al-Adha ou la fête du sacrifice. Des représentants du gouvernement afghan et des talibans doivent se rencontrer dans la capitale qatarie, Doha, pour une deuxième journée de pourparlers. Plusieurs hauts responsables, dont l'ancien président Hamid Karzai et le chef du Haut Conseil pour la réconciliation nationale Abdallah Abdallah, assistent aux négociations. Le nouveau cycle de pourparlers a suscité l'espoir qu'il pourrait conduire à une paix durable dans le pays. Pendant des mois, les deux parties se sont rencontrées par intermittence à Doha. Sans aucune avancée majeure, les négociations interviennent alors que les militants talibans ont intensifié leurs attaques contre les villes et les villages, s'emparant d'un vaste territoire. Le chef suprême des talibans, Haybatullah Akhundzadeh, affirme maintenant qu'il est résolument favorable à un règlement politique, malgré les gains et les avancées territoriaux du groupe. Et puis les forces israéliennes attaquent des manifestants palestiniens dans le quartier de Sheikh Jarrah à Al-Rawz. Les protestataires manifestaient contre les expulsions prévues par Israël de Palestiniens dans le quartier. Ils ont également appelé le régime à cesser leur déplacement vers la ville sainte de Rawz occupée. Au cours des 2 derniers mois, les forces israéliennes ont installé des postes de contrôle aux entrées du quartier de Sheikh Jarrah dans le cadre de plans visant à expulser des dizaines de familles. Israël a récemment intensifié l'expulsion des familles palestiniennes de Rawz Est. Le gouvernement palestinien a appelé la communauté internationale à prendre des mesures contre la politique d'accaparement des terres de Tel Aviv. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Une armée de l'air balistique, une DCA invisible. La résistance a déjà eu la peau de l'entité sioniste. Et si la énième disparition de Saad Hariri du devant de la scène politique libanaise, alors même que le pays, comme chacun le sait, a un besoin urgent d'un gouvernement, avait un lien direct avec ce drone israélien dont le porte-parole de l'armée sioniste a reconnu ce vendredi le crash au sud du Liban, crash qu'il a tenté à son habitude de banaliser en soulignant que l'appareil ne faisait rien d'extraordinaire si ce n'est une mission de routine et qu'au même abîmé en plein sud du Liban, il n'y a aucun risque de fuite de données sensibles, s'interroge l'article. À première vue, entre la démission de Hariri, un pion franco-saoudo désormais américain, pour qui le trio Blinken-Le Drian-Farhan avait rédigé juste avant son départ un énième feuille de route avant de le lui dicter au cours de sa courte escale au Caire et qu'il a exécuté à la lettre une fois de plus, d'un drone israélien perdu dans le sud d'un Liban où, depuis le 4 août 2020, plusieurs scénarios apocalyptiques, dont celui d'une double explosion semi-nucléaire israélo-américaine, suivie d'un débarquement des forces otaniennes au nom d'assistance humanitaire à un peuple en danger, puis d'une vacance de pouvoir parfaitement orchestrée sur fond d'un blocus financier et économique propre à déclencher des émeutes de la faim, il ne pourrait exister aucun lien apparent. Mais si ce fameux drone que les sources proches de la résistance affirment être un Hermès 450, un deuxième à avoir été intercepté puis abattu depuis le mois de février, et tout comme le mois de février dans le cadre d'une interception en cascade couvrant à la fois le ciel du sud du Liban, celui de Gaza, les choses nouvelles, celui de la Cisjordanie, le lien pourrait commencer à s'établir. Le 4 février, le Hermès 450 israélien est tombé dans le filet de la DCA sud-libanais, provoquant un méga-choc dans le camp sioniste qui est allé jusqu'à en accuser la Russie, coupable d'avoir fourni des systèmes Buk ME2 au Hezbollah. Le choc fut d'autant plus grand qu'à cette même époque, et presque de façon simultanée, Gaza a procédé aussi à l'interception et à la capture de deux drones israéliens de type Max 120, et ce ne fut pas à l'aide de fusils, mais bel et bien de tactiques de jimming et anti-jimming. Déroute israélienne face à Gaza, sans pousser les États-Unis à des extrêmes, la réaction du Liban s'interroge toujours l'article. En février, l'armée sioniste n'a pas osé y croire et voir à travers cette chasse croisée de drones la première manifestation d'un système de DCA intégré interrésistance qui, commençant depuis le sud du Liban et de la Syrie, s'étendrait jusqu'au ciel de Gaza et permettrait d'avoir une bulle de DCA électronique propre à défier les drones, voire les chasseurs les plus sophistiqués de l'entité. Mais en ce juillet 2021, soit près de deux mois après les 11 jours apocalyptiques de mai, marqués par des avalanches de missiles et de roquettes tirées à cadence régulière depuis le sud, non seulement contre les aéroports, les ports, les pipelines, les gazoducs, les sites offshore israéliens, mais encore contre 6 des principales bases aériennes sionistes, dont Palm Hashim, cette principale base à Hermès 450 de reconnaissance ou de combat équipé de Hellfire, eh bien Israël en a le cœur net. Il se trouve en face d'une puissance aérienne asymétrique émergente qui a remplacé le F-15, le F-16, le F-35, etc. par des missiles tactiques furtifs et précis et qui s'accompagnent d'une DCA largement plus performante que le sien, puisque capable d'opérations de jimming à la faveur des radars triphasés à balayage électronique, non pas dans la parole, comme c'est le cas des radars OLM 2084 des Dents de Fer, mais bien dans l'acte. D'ailleurs, ce drone israélien écrasé vendredi dans le sud du Liban l'a été simultanément, tout comme au mois de février, avec deux autres drones aussi israéliens, l'un un Sky Clark dans le ciel de Gaza et l'autre un Sky Raider, et c'est une première dans le ciel de la Cisjordanie. Évidemment, le porte-parole de l'armée israélienne, Avishai Adraï, s'est précipité pour nous chanter son antienne de toujours. Pas de danger de fuite de données, circuler rien à voir, mais cette rhétorique en trompe l'œil est destiné aux colons et non pas aux généraux et commandants de l'armée sioniste, dont 18 viennent d'être purgés par Khoshavi suite à la défaite historique qu'Israël a subie à Gaza et qu'il reconnaît avoir été fatale, aussi bien en termes géostratégiques que militaires, pour l'avenir d'une entité désormais à la merci de la toute-puissance militaire de la résistance.
Thank you. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. L'organisation des Moudjahidines à Khalq, OMK, connue en Iran sous le nom de Monaferine, hypocrite, est un groupe terroriste, un groupuscule terroriste qui a perpétré le plus grand nombre d'attaques terroristes contre le peuple et le gouvernement iranien. En fait, des attentats terroristes perpétrés contre à la fois les civils et des responsables politiques du pays. Ils ont tué le chef du pouvoir judiciaire du pays, le docteur Shahid Beheshti, et 72 autres hauts fonctionnaires du pays au cours de, si vous voulez, d'un attentat à la bombe. C'était en 1981, plus précisément le 30 août 1981, qu'ils ont tué le président de la République de l'époque, Mohammad Ali Rajaoui, et son premier ministre, Mohammad Javad Bahonar. Ils ont perpétré également, comme je viens de vous le dire, d'autres attentats terroristes contre plusieurs milliers de civils et militaires et politiques du pays. Ce groupuscule terroriste est présent dans plusieurs pays européens, très particulièrement en France, en Grande-Bretagne et très particulièrement encore en Albanie, où ils ont en fait une base. Et permettez-moi de faire cette précision également que lors de la guerre imposée par l'ancien régime irakien contre l'Iran, une guerre qui a duré 8 ans, de 1980 jusqu'à 1988, ce groupe terroriste s'est installé en Irak, c'est-à-dire en Irak pour aider l'agresseur, pour aider en fait le régime qui avait lancé une agression contre l'Iran, en l'occurrence le régime de Saddam Hussein. En fait, ils avaient créé des bases militaires en territoire irakien, mais après, si vous voulez, de l'invasion de l'Irak, et après, si vous voulez, de l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement à Bagdad, qui représentait, si vous voulez, le peuple irakien, il y a eu cette exigence de si vous voulez, de demander, si vous voulez, à ce groupe terroriste de quitter le territoire irakien. Maintenant, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, ils ont en fait leur base en Albanie, qui est ce pays européen, et ils continuent toujours de bénéficier du soutien des pays européens et également et surtout des États-Unis. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai avec moi en ligne pour cette émission depuis Toulouse un philosophe français spécialiste des questions internationales, Monsieur Pierre Dortillier. Monsieur Dortillier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir. Bonjour Monsieur Nerosti, bonjour à tous vos auditeurs, et aussi bien sûr à votre invité. Monsieur Luc Michel.
Vous l'avez bien dit, Monsieur Dortillier. L'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est Monsieur Luc Michel, géopoliticien belge, spécialiste des questions internationales, qui est en ligne avec nous pour cette émission depuis Bruxelles. Luc Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et à votre équipe. C'est un plaisir. Je salue particulièrement, cordialement, le professeur Dortillier, avec qui j'ai plaisir de me retrouver sur vos antennes aujourd'hui.
Merci. Monsieur Michel, je viens de lancer le sujet. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu, si vous voulez, de ce groupuscule terroriste et de ses activités et également du soutien, de l'assistance qu'il reçoit, si vous voulez, de certains pays européens et très particulièrement des États-Unis. J'ai oublié une chose également, Luc Michel, en fait, du soutien qu'il reçoit également de la part d'un autre pays de la région, l'Arabie Saoudite.
Écoutez, comme le thermomètre révèle la fièvre, l'histoire de ceux qu'on appelle les Moudjahidines du peuple, parce qu'on ne connaît pas le nom de l'OMK en Europe, eh bien, ça révèle l'iranophobie. Ça révèle l'iranophobie comme le procès d'Anvers contre un de Bourdieu, enlevé en Allemagne et jugé par la Belgique. comme une série d'autres événements médiatiques, les médias européens, en particulier les médias français et allemands, sont totalement imprégnés de cette iranophobie. Cette iranophobie contre l'Iran, c'est le pendant de ce qu'est la Russie, de ce qu'est la russophobie contre la Russie de Poutine. Continuellement, on diabolise et on méprise l'Iran. Le soutien que reçoit l'OMK en Europe, et en particulier en France, en Belgique et en Allemagne, ils symbolisent cela. En fait, ils sont l'espoir de certains milieux atlantistes en Europe, le centre de l'iranophobie dans les États-Unis. Ils sont l'espoir d'organiser dans votre pays, l'Europe, une révolution de couleur, un changement de régime communiste. Ils ont tenté le coup à deux reprises lors des dernières législatives, ça n'a pas marché évidemment, et ouvertement, toutes les sanctions économiques contre l'Iran, ils ont un but caché, c'est d'abord, c'est de soulever la population contre la République. Voilà ce qui se passe. Les Français sont en pointe dans cette iranophobie. Ils ont, permis aux Moudjahidines du peuple d'organiser un congrès à Villepin. C'est à cette occasion qu'a eu la provocation qui a conduit au procès d'Anvers. Il faut savoir que la France, depuis les années 1980 au Liban, c'est l'ennemi, peut-on dire, héréditaire de l'Iran. En 1986, le service Action du SDEC, aujourd'hui c'est la DGSE, mais c'est le même service, avait organisé un attentat terroriste pour tenter de détruire par explosif notre ambassade à Beyrouth, sous ordre de François Mitterrand. Ça a échoué. L'histoire, elle est connue, elle est révélée, parce qu'il y a eu un livre qui s'appelle « Les tueurs de la République ». Il y a tout un chapitre qui est consacré là-dessus. Il y a eu d'autres opérations terroristes depuis, évidemment. Ça va jusque dans les médias. Par exemple, il y a actuellement une série à succès qui est faite pour conditionner l'opinion publique. Elle s'appelle le Bureau des légendes. Elle est coproduite par Canal Plus et directement la DGSE qui a donné des informations permettent qu'on reconstitue ses locaux en studio, etc. La DGSE s'est présentée comme des chevaliers blancs. Ils s'attaquent au FSB russe. Ils s'attaquent évidemment à Daesh, ils ne disent pas que Daesh existe avec la complicité précisément des Occidentaux, mais surtout, il y a toute une série qui est consacrée à l'Iran. Vous êtes des tortionnaires, des tortureurs, le régime est quasiment dictatorial, et vous êtes en train de préparer, bien entendu, l'accession à l'Iran de la bombe atomique. C'est directement de la propagande purement atlantiste, mais vous devez savoir que la série Le Bureau des légendes, elle est tellement adaptée d'une série israélienne. Aux États-Unis, il y a la même phénomène, il y a une série qui s'appelle Homeland, et qui est directement tirée d'une série du même nom en Israël. Voilà donc ce qui se passe. Ces terroristes, en fait, ils sont un prétexte, un moyen et une utilisation. On doit savoir encore quelque chose. Il y a 20 ans qu'on organise des révolutions de couleur. Les Américains, ils disent des Egyptiens. Au départ, on employait soi-disant des soulèvements de la société civile. Ils étaient jusqu'à un stade avancé, pacifique. Aujourd'hui, c'est terminé. Le terrorisme est directement un élément de ces révolutions de couleur. On est en train de le voir au Belarus. Le président Loukachenko, il subit avec des marionnettes de l'Union européenne et des Américains une révolution de couleur. Eh bien, depuis quelques jours, il y a un mouvement terroriste. On a tenté d'assassiner des journalistes pour Loukachenko. Ça se passe comme ça dans tous les pays. Et voilà le rôle, donc, ces gens qui se présentent d'ailleurs en Europe sous le nom de Moudjahidine du peuple. Ce qui les rend sympathiques, les Moudjahidines qu'on appelle les soviétiques dans le pays, de l'atlantisme, évidemment, c'est très populaire, et du peuple s'attend à leur donner une légitimité et à dénier toute légitimité à l'Iran. C'est un scandale, malheureusement, qui n'est pas prêt de s'arrêter. Il n'y a pas qu'à Paris, il y a à Bruxelles. À Bruxelles, il est quasiment impossible d'organiser une manifestation. C'est le siège de l'OTAN et de l'Union européenne. Moi, j'ai fait 20 ans de la politique. Je suis encore actif de la politique électorale. Je suis encore actif dans la politique internationale. Je n'ai jamais eu l'autorisation d'organiser une manifestation. Mais quasiment toutes les semaines, ces moudjahidines du peuple défilent devant le Parlement européen, ils défilent devant la Commission européenne, ils défilent devant les principaux bâtiments au centre de Bruxelles, ils distribuent des tracts, ils interpellent les gens avec contre-pouvoir. Tout cela, bien entendu, est autorisé, non pas directement par la ville de Bruxelles, mais la ville de Bruxelles, elle a reçu des gens du ministère belge des Affaires étrangères, qui est l'étroit associé du Quai d'Orsay. Et bien entendu, de l'OTAN, la Belgique, c'est aussi le siège de l'OTAN.
Monsieur Dorsiguier, vous venez d'entendre Luc Michel qui disait que voilà, ce de groupuscule terroriste mène librement de ses activités à Bruxelles le siège. Monsieur Luc Michel a précisé ce point, le siège de l'OTAN et de l'Union européenne, alors que d'autres manifestations sont presque, si vous voulez, impossibles. Dans la capitale de l'Union européenne et de l'OTAN, idem pour certains autres pays européens. Ce groupe mène librement ses activités en France. Et je viens de le dire tout à l'heure, voilà, l'Albanie s'est transformée en quelque sorte en principale base de ce groupe terroriste. C'est idem également pour l'Allemagne. Même son de cloche à Londres, en Grande-Bretagne, alors qu'en fait, l'Iran, le peuple iranien, est la principale victime de ce groupe terroriste. Comment peut-on expliquer, M. Dorsiguier, le fait que ce groupuscule mène en fait en toute tranquillité et en toute liberté et ses activités, si vous voulez, dans de ces pays, sans oublier bien sûr les États-Unis?
Eh bien, la réponse à cette question que vous posez avec M. Luc Michel, que je remercie en particulier de la comparaison qu'il fait entre l'activité des moudjahidines du peuple et l'opposition qui est faite au président Loukachenko en Biélorussie. C'est tout à fait dans le même style. Mais je dirais que cette organisation terroriste est une menace, savoir les monafirines, les hypocrites, sont une menace permanente, et sont une menace permanente, non pas seulement, bien sûr, contre la République islamique d'Iran, après la révolution de l'imam Khomeini, mais ils sont une menace apparue avant la révolution. C'est-à-dire, dès 1965, cette organisation projetait des attentats en Iran, et donc était mise en réserve, voyez-vous, pour déstabiliser le pays. C'est-à-dire, c'est une organisation qui est en réalité contre la nation iranienne et bien sûr contre la République islamique d'Iran qui la représente. Ceci est très important, car il s'agit là non pas d'une déviation, mais il s'agit véritablement d'un acte de naissance. Toujours cette organisation, présidée par la veuve Mariam Jani, a toujours bénéficié de soutien. Voyez-vous, quand même, il est quand même étonnant de voir qu'une organisation qui a procédé, je crois, en 1965, à l'assassinat de quelques Américains en Iran, qui appartenait à une compagnie, soit par Mme Clinton en 2012, ne soit plus considérée comme une organisation terroriste. Il faut dire que la réponse, voyez-vous, allait dans ce que j'ai constaté en France. Par exemple, les moudjahidines du peuple, c'est ce qu'on appelle les moudjahidines, donc, sont reçus, non seulement ils pourraient être reçus à l'Assemblée nationale, bien sûr dans des ministères, mais ils sont reçus souvent, je dirais régulièrement, au palais du Luxembourg, c'est-à-dire au siège du Sénat. Et chez nous, le siège du Sénat, vous savez, qui est élu, qui est une élection indirecte, c'est pas une élection directe, populaire, est en réalité le siège d'une grande maçonnerie. C'est-à-dire que ça montre que cette organisation n'a pas du tout une origine, une structure nationale iranienne, quelle qu'elle soit, y compris d'opposition. Non. Elle a une structure étrangère à l'Iran, opposée à l'Iran, et une structure, je dirais, internationale, qui est un jouet dès le début entre, justement, les mains de ceux qui la dirigent. Elle a, je dirais qu'elle a séduit le monde en France, parce qu'elle se présente avec un air de laïcité, de féminisme même, puisque je crois que la plupart des personnalités de son comité directeur sont des femmes, tout ça. Voyez-vous, tout ceci, ce sont des peintures, des figurines, voyez-vous, pour disons, à la fois caricaturer l'Iran réel et en même temps, disons, donner une image idéale, idéaliste de l'Iran. Des gens comme l'abbé Pierre, chez nous, par exemple, ou José Bové, qui sont moins connus aujourd'hui, mais enfin, qui ont marqué leur temps ici en France, dans la gauche ou dans les milieux démocrates, voyez-vous, eh bien, étaient favorables au Moudjahidin, au Mounafirine, car il s'agit d'une immense opération et de terrorisme et de propagande. C'est-à-dire que c'est en réalité une organisation qui n'a rien d'iranien. Toutes ces personnes sont des poupettes, comme on dit. Je reprends exactement ce qu'a dit Michel à propos de la Biélorussie, par exemple. Quand on voit ces manifestants, vraiment, ils n'ont rien de commun contre le président Loukachenko, ils n'ont rien de commun avec la réalité du peuple de Biélorussie. Eh bien, c'est la même chose. Vous avez bien dit qu'il y a eu énormément de morts d'assassins, d'assassinats en Iran commis par ces gens-là. Eh bien, ces gens-là sont perpétuellement lavés. Ils ont énormément d'argent. Ils en disposent beaucoup, j'ai appris par vous-même, justement, c'est-à-dire par ce que Prestigia a publié, qu'ils avaient 34 hectares, je crois, à leur disposition en Albanie. Bon, alors quel est véritablement le sens de ce soutien? À mon avis, c'est un sens qui n'est pas du tout à chercher dans une querelle de partis politiques, non, pas du tout. Il ne s'agit même pas d'extrémisme.
Luc Michel, non, je vous en prie, monsieur d'Ortiguet.
Voyez-vous, bon, c'est-à-dire, disons, et que.
Merci beaucoup, monsieur d'Ortiguet. Luc Michel, en fait, vous l'avez dit, et Pierre d'Ortiguet également l'a souligné, ce groupe continue, si vous voulez, de bénéficier de toujours et du soutien des gouvernements, au moins de certains gouvernements européens, des États-Unis et également de l'Arabie Saoudite. Luc Michel, sous la précédente administration américaine, c'est-à-dire l'administration Trump, ce soutien accordé à ce groupuscule terroriste était, si vous voulez, ouvert. Il y avait dans l'entourage du président américain de l'époque ceux qui soutenaient ouvertement ce groupuscule terroriste. Vous vous en souvenez, les propos de John Bolton, de conseiller à la sécurité nationale des États-Unis de l'époque, et également, vous vous en souvenez des propos du conseiller et de l'avocat de Donald Trump, et qui participait même, si vous voulez, à ce congrès, à ces réunions de ce groupuscule terroriste à Paris et ailleurs. Mais quand même, ils ont échoué dans leurs objectifs, Luc Michel, n'est-ce pas?
Écoutez, ils sont utiles et il ne faut pas espérer que Biden va changer. Biden, il marche dans les pas de Trump dans toute la politique internationale, et le grand parrain des révolutions de couleur, c'est un certain George Soros. George Soros, aujourd'hui, il a un pied à la Maison Blanche, parce que la vice-présidente Kamala Harris est très très proche de son fils Alexander Harris, qui est Alexander Soros, qui est basé à Bruxelles d'ailleurs, et donc le soutien va continuer. Il faut savoir que ce soutien à des groupes terroristes, il est organisé directement par les gouvernements et les ministères des Affaires étrangères. J'ai cité l'opposition à Loukachenko, mais je vais citer encore un exemple révélateur en Afrique. Il y a un groupuscule opposé au président équato-guinéen qui s'appelle la COREP. Il est constitué d'équato-guinéens qui ont quitté le pays il y a plus de 30 ans. Eh bien, ils sont parrainés en 2015, par exemple, ils ont été officiellement invités au congrès du Parti Socialiste Français par le ministre des Affaires étrangères Fabius et par le Premier ministre Manuel Valls. En 2018, le chef de la COREP, il est basé en Espagne, il est ouvertement lié au secret espagnol. Il a organisé 4 coups d'État terroristes contre la Guinée équatoriale avec l'action de mercenaires étrangers. Ils ont tous échoué. Eh bien, ce chef, il s'appelle Severo Moto, il a été officiellement reçu à Bruxelles par le Parlement européen. Il ne faut donc pas s'étonner que ces méthodes qui sont générales soient appliquées à l'Iran. Aujourd'hui, les Occidentaux, ils ont 3 bêtes noires, c'est Moscou, Pékin et Téhéran. Contre eux, ils ont organisé 3 coalitions militaires, l'OTAN du Proche-Orient et le Quad. Et bien entendu, ils ont toujours l'espoir de ces révolutions de couleur. en particulier en Iran, on insiste fortement dans les médias occidentaux sur le fait que la population subit de plein fouet la crise économique. On ne raconte pas que la crise économique est provoquée par les sanctions, justement, comme dans un autre pays, le Venezuela, où là aussi les Américains et les Européens soutiennent un groupuscule terroriste. Et il y a un président qui s'est proclamé président du pays, qui est un fantoche américano-atlantiste, Guaido. C'est la même chose partout. Il ne faut donc pas s'étonner que les méthodes qui sont employées depuis 20 ans sur les quatre continents soient employées depuis 2010 contre l'Iran. Arriver à l'étabilisation de l'Iran, c'est l'un des objectifs majeurs de la politique étrangère américaine.
Merci.
Les Européens et les Atlantistes, ce sont simplement les porteurs de valises des Américains. Certains milieux industriels français souhaitaient d'ailleurs collaborer économiquement avec l'Iran. On les a obligés à s'en aller. C'est comme
Merci
ça que
beaucoup.
Ça se passe. Et donc, il ne faut pas attendre grand-chose de tous ces gens. Le soutien, bien entendu, au Moudjahid du peuple, il va continuer. Les manifestations vont continuer. Simplement, tout cela, ce sont des millions, si pas des milliards de dollars qui sont dépensés en vain.
Merci beaucoup. Luc Michel, vous soulevez en fait un point intéressant. Permettez-moi d'avoir l'approbation de M. Dortiguet également sur ce sujet. M. Dortiguet, nous avons au maximum 2 minutes de devant. Et nous, Luc Michel estime que voilà, l'objectif, ça s'inscrit dans le cadre de cette politique de déstabilisation, que ce soit, si vous voulez, à propos de l'Iran, à propos de l'Afrique et ailleurs dans le monde. Et votre autre point de vue sur ce sujet, s'il vous plaît.
Notre ami Jean-Luc Michel, c'est que la crise économique aujourd'hui mondiale amène justement ceux qui ne peuvent pas juguler cette crise, qui l'ont créée et ne peuvent pas la maîtriser, à vouloir, disons, faire une fuite en avant. Cette fuite en avant, c'est le soutien au terrorisme, c'est-à-dire ajouter, si je puis dire, du désordre à leur propre désordre. Voilà exactement, disons, la formule ou la situation dans laquelle se trouve ce qu'on aurait appelé autrefois le capitalisme international. Vous savez, les formules sont anciennes, mais elles sont toujours réelles. Je crois que c'est un signe de faiblesse. Le soutien au terrorisme, en particulier des Mouchérines, est un signe de faiblesse, justement, de cet ordre nouveau qui a été établi après la Seconde Guerre mondiale. Et je crois que, justement, ceux qui le soutiennent, ceux qui soutiennent ces terroristes, en réalité, disons, montrent qu'eux-mêmes sont incapables parce qu'il y a un ordre. Ils veulent imposer un ordre, mais ils créent du désordre.
Merci beaucoup. Merci infiniment, M. Pierre Dortiguet, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à Luc Michel d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
Zandaland, en raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Riz, céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire. Et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran, appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Les présidents de Congolais et Malgache, respectivement Denis Sassou Nguesso et André Rajoelina, ont félicité le président élu iranien Ebrahim Raisi pour sa victoire à la 13e élection présidentielle iranienne. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a adressé un message de félicitations au nouveau président réélu iranien Saïd Ebrahim Raisi en son nom et au nom du peuple et du gouvernement congolais. Le président congolais a également exprimé l'espoir qu'au cours de la présidence de M. Raisi, ils travailleraient ensemble pour renforcer les relations bilatérales amicales entre les deux pays. Le président malgache André Rajoelina a envoyé un message à l'adresse de Saïd Ebrahim Raisi au nom du peuple et du gouvernement malgache, le félicitant pour son élection à la présidence de la République islamique d'Iran. Je crois fermement que durant votre présidence, il y aura une bonne occasion de renforcer les liens de coopération et d'amitié entre les deux pays, a souligné André Rajoelina dans son message. Le président malgache a plaidé à cette occasion pour les efforts conjoints visant à renforcer les relations bilatérales dans le cadre des intérêts et du bien-être des peuples des deux pays. Méga exercice Algérie-Russie en Ossétie du Nord sur fond de rapprochement Alger et Sahel. Dans une décision importante, Moscou a invité l'armée algérienne à participer à des exercices militaires dans la région russe d'Ossétie, et cela pourrait être une réaction à la décision d'impliquer les pays arabes de l'OTAN dirigés par le Maroc dans des exercices militaires en mer Noire. Rayal Yaoum écrit à ce sujet, le journal d'Algérie patriotique proche du général à la retraite Khaled Nizar a fait état de l'achèvement des préparatifs de la planification des exercices militaires russo-algériens qui concerneront plusieurs aspects, notamment la planification logistique, la lutte contre le terrorisme, le renforcement de la coordination entre les unités, la poursuite des militants extrémistes, la recherche et la neutralisation d'engins explosifs et la réalisation de tests chimiques et biologiques dans la zone qui accueillera les exercices militaires. Les manœuvres auront lieu en octobre prochain et l'Inde et le Pakistan y participeront. Elles se dérouleront dans la région de Seti, dans le sud-est de la Russie, connue pour ses menaces terroristes et qui a été le théâtre d'opérations terroristes et est à l'origine d'un certain nombre de ces opérations en encourageant les extrémistes, a fait de savoir le journal en ligne, sans bien entendu faire aucune allusion à la participation de la République islamique d'Iran à l'exercice conjoint. L'annonce de ces manœuvres intervient trois semaines après la participation du chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Saïd Chengriha, à la conférence internationale accueillie par Moscou les 24 et 25 juin, au cours de laquelle il a fait part de la volonté d'Alger de rejoindre la vision russe de la sécurité internationale. L'invitation de l'Algérie est peut-être la réponse de Moscou à l'OTAN, qui a appelé un certain nombre de pays, dont le Maroc, à participer aux manœuvres qui se sont terminées ces jours-ci en mer Noire et a suscité de nombreuses polémiques, car c'est la plus grande du genre dans la région pour l'Alliance au cours des 30 dernières années. L'Algérie mise beaucoup sur ces manœuvres. Elle veut s'entraîner sur les armes russes
qu'elle acquiert et accroître la coordination avec les chefs militaires russes et une Russie concurrente militaire des États-Unis. Les chefs d'État et de gouvernement africains réunis à Abidjan ont plaidé pour une reconstitution ambitieuse des ressources de l'Association internationale de développement IDA à hauteur de 100 milliards de dollars afin de permettre au continent de relancer l'économie de ces pays. Notre réunion d'aujourd'hui vise à arrêter nos priorités communes de développement et à faire dans le cadre de la reconstitution des ressources de l'IDA un plaidoyer auprès des principaux donateurs de l'IDA afin de mobiliser au moins 100 milliards de dollars en vue de relancer nos économies, a indiqué le président ivoirien Alassane Ouattara à l'ouverture d'une réunion de haut niveau consacrée à une 20e reconstitution des ressources de cet organe de la Banque mondiale. Elle a rassemblé une quinzaine de chefs d'État et de gouvernements africains, les présidents des unions économiques d'Afrique occidentale et centrale, ainsi que de hauts responsables de la Banque mondiale, avec pour objectif de soutenir en Afrique une relance forte suite à la crise engendrée par la pandémie de nouveau coronavirus et d'aider le continent à poursuivre sa transformation économique. L'Afrique subsaharienne, selon le président ivoirien, a connu en 2020 sa contre-performance la plus importante jamais enregistrée, avec un taux de croissance négative de 1,9% et une augmentation de 32 millions du nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Malgré les efforts des partenaires au développement et les initiatives propres prises par les pays africains pour contenir les effets de la pandémie, beaucoup reste à faire pour surmonter cette crise, a estimé M. Ouattara, avant d'appeler à la solidarité indispensable pour le bien de tous et pour combattre les divergences entre les régions du monde. Le directeur général des opérations de la Banque mondiale, Axel van Trutzburg, et le directeur général de la Société financière internationale, Makhtar Diop, ont réaffirmé de leur côté leur engagement à accompagner l'Afrique pour une mobilisation des ressources nécessaires à la relance des économies du continent. Au terme de leur réunion à huis-clos, les participants ont adopté une déclaration d'Abidjan qui devrait constituer un cadre de référence pour la priorisation des interventions de la Banque mondiale au cours des années à venir. Dans cette déclaration, il réitère le rappel pour un soutien accru au continent africain et exhorte les donateurs de l'IDA à soutenir une reconstitution ambitieuse et importante des ressources de cet organisme pour une mobilisation d'au moins 100 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. L'Union africaine préconise de pousser l'intégration continentale pour stimuler la reprise économique de l'Afrique. Alors que la COVID-19 a plongé l'Afrique dans sa première récession depuis 25 ans, l'Union africaine a souligné la nécessité de relever les défis de l'intégration africaine pour accélérer la reprise économique du continent. Le bloc panafricain de 55 membres commémore depuis le 7 juillet la journée de l'intégration africaine sous le thème « Le rôle de l'intégration continentale dans l'accélération de la reprise économique africaine après la pandémie de COVID-19 » selon un communiqué de l'Union africaine publié jeudi. Au cours des deux dernières décennies, l'Afrique a enregistré un taux de croissance de 4,6% en moyenne, malgré un environnement économique et financier international défavorable. La pandémie actuelle de COVID-19 a cependant plongé le continent dans sa première récession depuis 25 ans exposant la vulnérabilité des économies africaines. Selon le communiqué, la perte cumulée du PIB de l'Afrique est estimée entre 145 et 190 milliards de dollars américains, avec des projections inquiétantes selon lesquelles 39 millions de personnes supplémentaires pourraient être poussées dans l'extrême pauvreté si des mesures urgentes ciblées ne sont pas prises pour résoudre les difficultés socio-économiques causées par la pandémie. Eh bien, chers amis, ici, touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.